Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Une fois de plus, confiné à mon domicile comme mesure préventive pour isoler le virus de la Covid-19, qui vous parle depuis Buenos Aires, Eric Domergue, je renoue le contact avec vous dans ce nouveau programme de RAE, l'Argentine vers le monde en 8 langues, avec la production de Sylvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du site web, sous la direction de Adrien Corol. Jour à jour, nos auditeurs peuvent trouver le rapport officiel sur la santé présenté par le gouvernement argentin sur notre site web www.rae.com.ar. Y figurent également les horaires de transmission par onde courte, alors que en streaming, quotidiennement, vous avez accès à la programmation commune de Radio Nationale Argentine sur la plupart des signaux AM, FM et RAE. Et ne manquez pas d'envoyer vos rapports de réception à qslrae@gmail.com. Par ailleurs, je vous invite à visiter la chaîne YouTube de RAE, l'Argentine vers le monde, où vous trouverez une partie des productions et des contenus réalisés par toute l'équipe qui constitue le signal international des médias publics en Argentine, notamment des productions en français sur le Maté et sur le quartier de San Telmo. Maintenant, place à l'actualité. Le président Alberto Fernández a finalement annoncé, mardi 17 novembre, que le projet de loi visant à légaliser l'avortement serait envoyé au Congrès national. C'était l'une des grandes promesses de campagne du président lors des élections et le débat avait été retardé par la pandémie du coronavirus. Ainsi, le gouvernement argentin souhaite que le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse soit discuté en décembre au Congrès, accompagné par le plan des 1000 jours qui établit un soutien à la maternité et aux 3 premières années de vie des enfants en situation de vulnérabilité. La semaine dernière, la secrétaire juridique et technique, Vilma Ibarra, l'une des personnes de confiance d'Alberto Fernández et une fervente militante pour un avortement sûr, légal et libre, avait annoncé que le projet serait présenté en novembre avec l'intention de commencer à en discuter en décembre, une fois que l'ordre du jour des sessions extraordinaires aura été décidé. Les détails du projet de loi ont été analysés par le président lui-même le week-end dernier et son entourage a confirmé qu'il serait officiellement annoncé mardi, malgré le fait que l'alliance péroniste au pouvoir, le Front de tous, n'est pas assurée des votes nécessaires dans aucune des deux chambres. Les différences ne sont pas partisanes car l'Église et les groupes pro-vie sont un grand facteur de pression. Cela dit, en Argentine, on estime que tous les mois, au moins 100 femmes des secteurs pauvres et vulnérables doivent subir des avortements clandestins avec des conséquences très graves pour leur santé et leur vie. Après une semaine de chaos, le Pérou a désigné président le député Fernando Sagasti, qui devient le troisième chef d'État en une semaine, après la destitution de Martín Vizcarra par le Congrès et la démission de Manuel Merino sous la pression de la rue, 5 jours après son entrée en fonction, qui avait suscité de violentes manifestations dans le pays, avec au moins 2 morts. France 24 a informé sur ces jours de chaos.
Martín Vizcarra a été censuré il y a 6 jours par le Parlement péruvien suite à des actes présumés de corruption lorsqu'il était président de la région de Moquegua au sud du pays. Suite au vote de la motion censure du Parlement, Vizcarra a démissionné. Mardi matin, Manuel Merino, qui était alors président du Parlement, est devenu président du Pérou. Il a démissionné ce matin suite à 6 jours de manifestations massives dans tout le pays. Ces manifestations, il faut le souligner, n'ont été en fait pas en défense de l'ex-président Martín Vizcarra, mais ont été en défense de la stabilité politique du pays, puisque les prochaines élections présidentielles sont prévues pour avril 2021. Ces manifestations, malheureusement, se sont terminées avec plus d'une centaine de blessés, 40 disparus et au moins 2 personnes qui sont décédées. Actuellement, tous les ministres de Manuel Merino ont effectivement aussi présenté leur démission pendant la nuit. Il faut aussi rappeler que le Pérou est un des pays les plus touchés par la pandémie du Covid-19 au niveau mondial. C'est une crise sanitaire qui a plongé le pays dans une crise sociale et économique l'une des plus graves dans les dernières années. C'est aussi pour cela que les Péruviens sont sortis dans la rue, justement pour réclamer cette stabilité politique jusqu'aux prochaines élections présidentielles.
Alors Audrey, vous trouvez à Lima. Est-ce que ce soir encore, les manifestations se poursuivent ?
à Lima, où je vis actuellement, plusieurs quartiers de la ville. C'est une ville de 10 millions d'habitants, il faut bien le savoir. Ce n'est pas que dans le centre de Lima, c'est dans plusieurs quartiers, plusieurs districts de la ville. Les gens sont dans la rue, les gens sont actuellement en train de célébrer la démission de Merino. Mais il faut aussi rappeler que c'est une manifestation massive dans tout le pays, dans plusieurs régions. Et actuellement, les Péruviens sont encore dans la rue et ils vont, à mon avis, rester, ils vont rester, ils le disent dans les réseaux sociaux, ils vont rester dans la rue jusqu'à ce que cette transition vers un nouveau président et un nouvel gouvernement se fasse dans les jours qui viennent.
Right above you, night breezes sing to whisper I love you.
Julio Cortázar est toujours une référence au moment de tendre des ponts entre l'Argentine et la France. Nous en avons déjà parlé dans d'autres programmes. Mais il est bon de revenir un peu sur son parcours avec différents moments de sa vie personnelle, politique et littéraire des deux côtés de l'Atlantique. Nous allons parcourir ses sentiments quand il se promenait la nuit dans les rues de Paris, son amour pour le jazz, les raisons sur sa naturalisation française le 1er juillet 1981 et une table ronde sur le livre de Manuel en 1974, le tout accompagné de deux chansons, Java, interprétée par Juan Tata Cedrón, paroles de Cortázar lui-même et musique de Edgardo Cantón, et pour finir, Bolero, d'un album de Jamila Purofilin, tribu a Julio Cortázar.
Chaque fois que je me promenais dans le temps, quand je pouvais me promener à Buenos Aires. Et chaque fois que je me promène ici à Paris, seul, surtout la nuit, je sais très bien que je ne suis pas le même qui, pendant la journée, mène une vie ordinaire et normale. Je ne veux pas faire du romantisme bon marché, je ne veux pas parler d'état second. Mais il est évident que ce fait de se mettre à marcher dans une ville comme Paris ou Buenos Aires, la nuit, cet état ambulatoire où à un moment donné on cesse d'appartenir au monde ordinaire, mais situe par rapport à la ville et situe la ville par rapport à moi dans une relation que les surréalistes aimaient à appeler privilégiée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se produit vraiment le passage, le pont, les osmoses, les signes, les découvertes, tout ce qui finalement a donné une grande partie de ce que j'ai écrit comme roman ou comme nouvelle. Marcher dans Paris, et c'est pour ça que je qualifiais Paris de ville mythique, marcher dans Paris signifie avancer vers moi. Mais c'est impossible de le dire avec des paroles, des mots, ça. C'est-à-dire que dans cet état où j'avance un peu perdu dans une distraction qui me fait regarder des affiches, des enseignes de bistrot, des gens qui passent, et établir tout le temps de relations qui composent des phrases, de bribes de pensées, de sentiments. Tout ça crée un système de constellations mentales et surtout de constellations sentimentales qui déterminent un langage que je ne peux pas exprimer par les mots, par les paroles. C'est à ce moment-là où il y a, à Paris par exemple, des lieux qui ont été toujours privilégiés pour moi. Je pourrais vous citer un, le premier qui me vient dans la mémoire. Là, tout près d'ici, au Pont Neuf, à côté de la statue d'Henri IV, il y a un réverbère dans le fond, là où on descend pour prendre les bateaux-mouches. La nuit, à minuit, quand il n'y a personne, ce coin-là, solitaire, c'est absolument pour moi un tableau de Paul Delvaux. Et il y a le sentiment du mystère qu'il y a dans les tableaux de Paul Delvaux, cette imminence d'une chose qui peut paraître, qui peut se manifester, et qui vous met dans une situation qui n'a plus rien à voir avec les catégories logiques et les événements ordinaires. Je pourrais aussi vous parler du métro à Paris. Le métro a été toujours pour moi un lieu de passage où il me suffit de descendre dans le métro pour entrer dans une catégorie logique tout à fait différente, ou des catégories logiques. Mon sentiment du temps change. D'ailleurs, dans une nouvelle, L'homme à l'affût, il y a un personnage qui découvre que le temps est complètement différent quand on est dans le métro que quand on est en surface. Et il peut même le prouver logiquement. Ça, c'est un sentiment, une expérience que moi j'ai au moins une fois tous les 15 jours. C'est-à-dire brusquement découvrir que dans certains états de distraction dans le métro, on a le sentiment qu'on peut habiter dans un temps qui n'a aucun rapport avec le temps qui existe en surface quand on sortira une fois de plus dans la rue. Il y a aussi les galeries couvertes, la galerie Vivienne, il y a tous ces endroits de Paris que les gens parcourent pour aller à la recherche d'une boutique, et qui pourtant étaient les lieux hantés de l'autre amont dans le quartier de la Bourse. Toutes ces galeries couvertes qui font un Paris absolument magique, mystérieux, et c'est ce que j'appelle mythique. Dès que j'ai commencé à écouter du jazz, j'ai découvert une chose. J'ignorais parce que je ne connais pas beaucoup de théorie musicale, c'est que, à l'encontre de la musique classique, où il y a une partition et un interprète qui joue la partition avec beaucoup moins de talent, il se passe que chez le jazz, en général, sur un canevas, un thème et quelques accords fondamentaux, chaque musicien crée son œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le médiateur, il n'y a pas la médiation d'un interprète. Il n'y a pas d'interprète, c'est un homme qui est en train de créer une improvisation d'Armstrong, une improvisation. Je ne parle pas des grandes formations avec des arrangements, que d'ailleurs j'aime moins. Non, je parle d'un Armstrong, je parle d'un Hawkins, je parle de Miles Davis. C'est-à-dire qu'à chaque minute, il y a une création. Et alors, à ce moment-là, je me suis dit que finalement, je ne sais pas si ça a été dit, le jazz est la seule musique, avec la musique de l'Inde aussi, qui ressemble la grande ambition du surréalisme en littérature, c'est-à-dire travailler dans un état d'écriture automatique, d'inspiration totale, n'être pas soumis à un discours logique, mais à un discours qui naît des profondeurs. Et alors là, il y a évidemment un parallèle entre le surréalisme et le jazz, et comme j'étais très très marqué par le surréalisme français quand j'étais jeune, et ça a coïncidé avec ma découverte du jazz, le jazz a précédé un peu ça, j'ai toujours senti ce parallèle. La notion de fantastique ne s'applique pas là, mais si l'impression de surréalisme. C'est-à-dire que pour moi, mon style à moi en tout cas, je ne veux pas dire le style de n'importe quel écrivain, mon style à moi est basé sur une notion de rythme qui vient du jazz. C'est pas qui vient du jazz, qui est né en moi en même temps que le jazz, c'est peut-être que moi je suis allé vers le jazz parce que ce rythme existait en moi. Et n'étant pas musicien, je l'exprimais en parole. C'est-à-dire que si la phrase que j'écris, les phrases que j'écris, surtout dans la fin de mes nouvelles, c'est très perceptible ça, si la phrase ne répond pas à un certain rythme, ça ne contient pas ce que je veux exprimer. Et je crois que j'arrive à l'exprimer parce qu'il y a le rythme. Ce qui me pose un problème terrible en ce qui concerne les traductions. Parce que quand je travaille avec un traducteur dans les langues que je connais, très souvent je lui dis, bon, là, tu as dit ce que j'ai dit, mais tu ne le dis pas, parce qu'il manque le rythme. Il manque le swing, le beat. Ça manque là-dedans. Et c'est une question d'une virgule, d'appuyer sur certaines choses. Et ça n'a rien à voir avec le maître en poésie, que ce soit un alexandrin. Non, c'est pas ça.
Quedaremos solos, quisiera ya de noche. Nos quedaremos solos, mi almohada y mi silencio. Y estar a la ventana, mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas. Yo diré, ya es muy tarde, no me contaré. te estarán, ni mis guantes, ni el peine, solamente tu olor, tu perfume. Olvidado como una carta puesta boca abajo en la mesa, celoso va de ser y quizamba, se saya va, se ma triste ya va. Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo, viendo bajar los cuernos de la noche en medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo, donde duerme en tu seno quemado por la luna. Y diré, ya es de noche, y estaremos de acuerdo, o muebles o ceniza. Con el organillero que remonta en la esquina sus títeres de luna para los niños pobres. Se la llevó de ser quizamba, se sa llevó, se ma triste llevó. Corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. Lará, 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 lará.
Julio Cortázar, vous êtes né à Bruxelles de parents argentins et vous avez la, vous êtes vraiment argentin.
Oh oui, enfin tout ça n'a pas tellement d'importance.
Si, tout de même pour les
jeunes. Je me considère surtout comme un latino-américain.
Oui.
Mais je suis argentin en effet, je suis né en Europe tout à fait par hasard et je réside en France depuis plus de 20 ans, tout en gardant ma qualité de latino-américain. Comme je crois que je viens de le prouver de la façon la plus simple et le plus modeste en donnant le montant du prix Médicis pour la cause de la résistance chilienne. J'ai l'impression que plus que jamais, la solidarité internationale devrait se manifester en ce qui concerne le Chili, où vraiment on assiste non seulement au renouveau d'un fascisme en Amérique latine, mais d'un fascisme qui pourrait aller beaucoup plus loin. Très dernièrement, j'ai vu à Paris une affiche où l'on voit l'image du général Pinochet avec ses lunettes de soleil. Alors il y a Hitler sur une des verres, Mussolini sur l'autre, et en dessous c'est écrit, très bien à mon avis, ça dit l'héritier, aujourd'hui il est chilien, mais demain, point de suspension. C'est pour des choses comme ça, pour le destin d'un peuple latino-américain que j'aime et pour lequel je lutte, que j'ai donné le montant du prix Médicis, qui d'ailleurs me rend très fier et très heureux.
Vous avez traduit en Amérique du Sud des œuvres françaises et anglaises.
Oui, j'ai gagné un peu ma vie comme ça, quand j'avais 25 ans. Par là. J'avais la chance d'avoir des amis éditeurs qui m'aient donné à choisir, ce qui m'a permis de traduire André Gide, par exemple, Jean Giono, Marguerite Yourcenar. Donc je faisais semblant de gagner ma vie, mais je m'amusais, c'était mon plaisir royal de traduire de grands écrivains. Ça m'a aidé à perfectionner mon mauvais français et me préparer pour le jour où le destin a fait que j'arrive en France et j'y reste.
Vous êtes engagé dans le champ politique, par exemple, en distribuant le prix en question. Mais il me semble que vous êtes aussi engagé d'une autre manière, c'est-à-dire directement en littérature. Et qu'à la lecture du livre de Manuel, d'une part, à la lecture des livres précédents, en particulier Marel, par exemple, on a l'impression qu'il y a un très grand changement, que votre façon d'écrire n'est plus la même.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que pendant des années, mon engagement politique, qui a commencé après plusieurs séjours que je fais à Cuba, où j'ai découvert une nouvelle façon, une nouvelle optique latino-américaine que je ne connaissais pas, que je ne soupçonnais vraiment pas, j'ai fait une activité, si vous voulez, politique ou idéologique. Et en même temps, je continuais à écrire de livres qui étaient, si vous voulez, de la littérature pure, comme c'est le cas de Marel, qui est, dans mon esprit, un livre plutôt métaphysique. Alors après, et c'est le cas du livre de Manuel, je me suis posé le problème s'il ne serait pas possible d'établir une certaine convergence, et surtout sans sacrifier la littérature, parce que je tiens à ça, essayer quand même de faire d'un livre un instrument de combat, mais pas dans le sens usuel, c'est-à-dire asservir la littérature, la faire devenir simplement un véhicule de ce qu'on appelle le message. Parce que je crois qu'à ce moment-là, et le message et la littérature sont perdants.
Ça n'est donc plus le même modèle que celui de Sartre, par exemple, quand il faisait la littérature engagée.
C'est ça, si vous voulez. Oui. Essayez quand même d'arriver à cette très difficile fusion des éléments littéraires qui ne devraient rien perdre de leur qualité littéraire et en même temps laisser passer un certain message pour des lecteurs capables de les saisir.
Et tous ces problèmes d'engagement, c'est difficile pour vous, parce qu'à un endroit, vous dites, je crois, je suis très égoïste, j'ai horreur quand on me tire d'une lecture ou d'une musique. Or là, manifestement, vous en attirez. Enfin, il y a Pinochet en particulier qui vous en attirez.
Oui, mais bien sûr, mais ça continue à être, si vous voulez, mon petit drame personnel de petit bourgeois. Exactement. C'est-à-dire que, comme un des personnages de mon livre qui s'appelle Andrés et qui me reflète assez dans le livre de Manuel, je suis un homme qui aime beaucoup écouter de la musique aléatoire et ne pas être dérangé pendant qu'il l'écoute et qui voudrait quand même arriver à faire son travail idéologique et politique en gardant ce côté esthétique, ce côté de vie privée dans le champ de la littérature et de l'art qu'il a toujours réservé.
C'est un peu écartelé alors. Hein?
Absolument. Et ça, c'est une lutte, mais je pense que ça vaut la peine de mener ce combat dans soi-même. Et surtout, je répète, sans sacrifier les valeurs littéraires. Parce qu'à ce moment-là, je pense que ce serait à pure perte.
Vous dites que vous ne voudriez pas sacrifier vos vues esthétiques sur le plan romanesque, mais vous ne pourriez pas le faire. Vous le voudriez même que vous ne pourriez pas. Tout votre univers de romancier, qui depuis les armes secrètes avec les nouvelles qui étaient tellement belles, sont faites précisément de sensibilité, d'intelligence, de clairvoyance et d'une force poétique énorme. Et c'est vrai que dans le livre de Manuel, vous avez fait des pas en avant extraordinaires. L'engagement du livre est très bouleversant, d'un bout à l'autre. On est tout de suite pris. Parce que c'est un livre qui n'a ni commencement, ni milieu, ni fin, en réalité. L'anecdote pure du livre ne compte pas. Ce qui est absolument admirable, c'est précisément qu'on entre dans la vie de toute cette bande de révolutionnaires parisiens, et on y retrouve votre écriture qui est l'écriture de Cortázar et qui
mais
ne ressemble à personne.
On a reproché à Julio Cortázar de faire des collages, c'est-à-dire de céder.
Eh bien, c'est très beau.
C'est très beau, mais c'est j'ai vu qu'on vous l'a reproché, je crois.
Oui, hein, mais oui. Bien sûr, il y a toujours des gens pour reprocher quelques audaces d'écriture ou de composition quelconque.
Ces audaces d'écriture et de langage, en fait, ce travail sur le langage est déjà dans l'esprit de Cortázar, il me semble en tout cas, un travail révolutionnaire. Enfin, d'une certaine manière,
très
la
juste.
Révolution passe par la révolution des moyens de connaissance.
Absolument. Ce que j'appelle la partie de combat du livre de Manuel n'est pas dans l'anecdote, qui est finalement assez banale et triviale, une histoire d'enlèvement comme il se passe tous les jours. Non, ce n'est pas ça. Je pense que c'est justement dans le plan de l'écriture. C'est là où j'essaye de faire passer quelque chose. Il y a toute une critique de nos préjugés, de nos tabous, de toutes nos inhibitions en tant que latino-américains qui font que des gens qui se croient vraiment des révolutionnaires et qui donnent même leur vie pour la révolution sont quand même prisonniers d'un système mental, d'un système de langage qui appartient à l'ennemi et qu'il faudrait commencer par détruire pour arriver vraiment à créer ce qu'on a appelé justement l'homme nouveau.
Pour, je crois, l'ensemble des hommes de culture de ce pays, c'est une grande joie, un grand honneur que vous nous faites en acceptant, en ayant demandé, en acceptant la nationalité française.
Je vis en France depuis 30 ans et mon statut d'étranger m'a obligé, comme c'est normal, à rester en marge des affaires politiques du pays. J'ai pu écrire ici une grande partie de mon œuvre et participer de plusieurs façons à la lutte que tant de latino-américains nous livrons pour la liberté de nos pays opprimés par des dictatures. Mais en même temps, j'ai dû garder un silence total quant à mes opinions sur les problèmes français. Et si cela est possible au début, quand on est vraiment étranger au pays, cela devient pénible et humiliant quand on a vécu 3 décennies en France et on ressent la nécessité et le droit de manifester ouvertement ce qu'on préfère et ce qu'on récuse.
Merci.
Solamente dice, siempre fuiste mi espejo. Quiero decir que para verme tenía que mirarte. Fuiste mi espejo. Quiero decir que para verme tenía que mirarte.